Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce lieu. Nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Ce soir, je voudrais aborder un thème particulier, mais le premier verset que nous pourrons lire, il se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Vous savez que Matthieu chapitre 5, c'est le début du sermon sur la montagne. Et il y a toute une série de paroles de Jésus qui sont tellement merveilleuses dans ce passage. Mais je voudrais qu'on lise juste ce verset 17. Parce qu'on se trouve dans une époque, malheureusement, où les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas s'ils doivent être sous la loi ou être sous la grâce, ou certains ils sont au milieu, ils ne savent pas si ce qu'ils doivent faire exactement, ce qu'ils doivent garder de l'Ancien Testament, ce qu'ils doivent rejeter de l'Ancien Testament. Les gens sont dans toutes sortes d'interrogations par rapport à la loi, et Jésus a pourtant été très clair, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. » Vous avez déjà rencontré sûrement des personnes qui étaient tellement légalistes, qui revenaient à toute la loi de Moïse, toutes les ordonnances, et limite si c'était encore possible, ils sacrifieraient dans le temple les animaux si le temple était encore debout. Mais d'un autre côté, on trouve des gens qui rejettent totalement la loi et qui disent « maintenant on est sous la grâce ». Est-ce que, qui c'est qui a raison ? Qui c'est qui a le plus raison ? Les uns ou les autres ? Ce passage nous montre justement que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu rejeter, et pendant toute sa vie, il n'a jamais enfreint la loi une seule fois. Mais il est venu montrer de quelle manière il fallait interpréter la loi. Le problème des pharisiens, le problème des gens qui l'écoutaient à l'époque et qui le jugeaient, c'est qu'ils avaient une certaine idée de la loi, ils avaient une certaine compréhension de la loi, ils avaient une certaine compréhension de ce que Dieu demandait. Et on se rend compte que c'était pas du tout celle que Jésus apportait. C'est pour ça que les gens, quand ils entendaient le Seigneur Jésus parler, quand ils entendaient toutes ces choses merveilleuses sur le sermon sur la montagne, leur cœur était interpellé. Dimanche encore, M. Gau nous disait, quand Jésus parlait, souvent il rapportait cette parole, « Moi, je vous dis ». C'est-à-dire que, non pas qu'il inventait quelque chose de nouveau, mais il expliquait ce que la loi voulait vraiment dire. Il expliquait pas, il rajoutait pas de nouvelles doctrines. Il expliquait avec beaucoup plus de poids la parole de Dieu. Et il y a une différence indubitable entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, un verset dans la parole nous dit « la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». On peut prendre un verset de la parole de Dieu et faire du mal à quelqu'un avec ce verset. On avait une expression en Aix-en-Provence, quand on voulait taper quelqu'un, on disait « on va le lapider à coups de Bible ». Quand on voulait le bousculer un peu avec des raisonnements religieux, on va le lapider à coups de Bible. Et on comprend bien ce que ça veut dire. Et des fois, c'est ce qu'on fait malheureusement. Il y a quelques années en arrière, il y a eu l'invasion des vêtements qui venaient d'Asie. Vous savez tous que depuis que les prix ont baissé, c'est parce qu'on a envahi de vêtements qui viennent d'Asie, de Chine en particulier. Et ça a fait tellement baisser la part de marché des entreprises qu'il y a certaines entreprises qui ont dû essayer de s'en sortir, de trouver des moyens. Il y en a certaines qui ont dû délocaliser. Par exemple, celle dont je parle, c'est en Roumanie. Elle a dû délocaliser, sinon elle mettait la clé sous la porte. Sinon, elle fermait totalement. Et les employés, ils avaient tellement bien compris cette vérité que quand l'entreprise leur a demandé si elle leur proposait les postes en Roumanie, le salaire, c'était 110 euros par mois. Ils se sont mis d'accord, l'entreprise et les ouvriers sont mis d'accord. On ne fait même pas la proposition. Ça serait tellement indécent. Sauf que derrière, il y a la justice qui s'en est mêlée. Et la justice a dit, vous êtes obligés de faire une proposition à vos salariés. Donc vous ne l'avez pas fait, donc vous devez payer tant d'argent. C'était entre 50 000 et 120 000 euros à chaque employé. Et du coup, l'entreprise a mis la clé sous la porte. Vous voyez ? L'esprit de la loi, ça aurait été de comprendre que pourquoi la personne, pourquoi le directeur n'a pas voulu proposer les postes à la personne. Parce que c'était par décence, par respect. Mais la loi et la lettre de la loi a fait que l'entreprise a fermé. Et souvent, on est peut-être trop dans une compréhension de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire, dans la lettre, dans cette chose qui juge, qui condamne, qui fait du mal, alors que l'esprit de la loi, c'est quelque chose de totalement différent. Et je voudrais le dire ce soir, Jésus, celui qui nous donne la bonne vision de la loi, nous dit que ce soir encore, aujourd'hui encore, même 2000 ans après, nous sommes sous l'esprit de la loi. Nous sommes dans cette vérité où nous devons respecter ce que Dieu appelle la loi. Alors, on va voir dans Matthieu 23, maintenant, des remontrances que Jésus fait. Il en a fait plusieurs aux pharisiens. Mais dans ce passage, c'est comme s'il faisait un résumé de tout ce qu'il reprochait aux pharisiens. Toutes les choses que ces hommes, qui justement avaient mal interprété les Écritures, toutes ces choses qu'ils avaient besoin d'entendre. Et dans Matthieu 23, chapitre et verset, c'est 23, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » La question est simple ce soir. Qu'est-ce qui est le plus important dans la loi ? Jésus y donne une réponse. Le plus important dans la loi, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous êtes d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous arrangez avec le Seigneur, de toute façon. Dans Jean chapitre 8, nous allons voir. On va voir trois situations où le Seigneur a montré que c'était le plus important. La justice, la miséricorde et la fidélité. Trois choses qui sont tellement importantes aux yeux de Dieu et qui passent par les siècles. Et dans 1000 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, ce qui m'étonnerait beaucoup, ça sera encore important. Ça sera toujours important. Du temps de Moïse, c'était important, mais du temps dans lequel nous sommes, c'est important ces choses-là. Jean chapitre 8, verset 3, vous connaissez l'histoire de la femme adultère. On peut lire rapidement cette histoire pour se remémorer tous ces passages. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Va et ne pêche plus. Amen. Devant l'adultère, quelle était l'interprétation de la loi ? Mais quand on lit, c'est vrai que la loi demandait à ce que les personnes qui commettaient l'adultère soient lapidées. Ça, c'était la loi de Moïse. Et les pharisiens, ils sont dans cet état d'esprit d'appliquer à la lettre la loi. Mais le Seigneur Jésus, lui, vous avez vu comment il a réagi ? Il a dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Il a accordé son pardon pour montrer bien que le plus important dans la loi de Dieu, c'était que les pécheurs puissent être pardonnés, que la justice soit rendue. Mais la justice, ce n'est pas que le pécheur meure. La justice, c'est que le pécheur change d'attitude, c'est que le pécheur soit transformé, c'est que le pécheur soit délivré du péché et qu'il ait une vie nouvelle. C'est ça la justice de Dieu. Pour Dieu, le plus important, c'est la justice. Or, dans cette histoire, on voit qu'il y a beaucoup d'injustices, vous le connaissez. Il y a normalement deux accusés, mais il n'y en a qu'un qui se présente. Parce que pour commettre l'adultère, il faut être deux. Et il n'y a que la femme qui est amenée là. Deuxième injustice, les motifs des personnes qui accusent, c'est pour éprouver Jésus, ce n'est pas pour rendre justice, c'est pour éprouver le Seigneur, pour l'accuser. Troisième injustice, tous, ils sont coupables. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, et la preuve, c'est que quand Jésus dit cette parole mémorable, ils s'en vont tous, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Mais Jésus nous donne cette vraie interprétation de la loi, c'est qu'il veut véritablement apporter ce changement dans la vie des pécheurs. Le fait que le plus important c'est la justice, ça veut dire que la justice triomphe, ça veut dire que la justice de Dieu triomphe dans les situations. Et la loi de la justice, cette loi-là, elle est encore valable aujourd'hui. Dieu, il est juste, il est saint, il est parfait. Et parce qu'il est saint, il demande que le péché soit jugé, ça c'est la justice. À ses yeux, nous sommes tous coupables. Tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont au dehors de cette salle, ils sont tous coupables aux yeux de Dieu. Et la justice voudrait que nous soyons condamnés de manière pour toute l'éternité, tout simplement. Mais à la justice de Dieu, il y a aussi cet amour incroyable du Seigneur qui fait qu'il a choisi que le péché soit condamné, mais pas que nous soyons condamnés. Il a choisi que Jésus porte le péché. Notre péché dans son propre corps, il a choisi qu'il subisse notre châtiment afin que nous puissions, nous, marcher dans la justice. Combien c'est merveilleux. La croix, on le sait que c'est la preuve d'amour du Père. Il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous connaissez ce verset. Mais la croix, c'est aussi la preuve de la justice du Père. Parce que le péché, fallait qu'il soit condamné. Et il a été dans la personne de Jésus à la croix. Maintenant, si nous mettons notre foi dans cette vérité, alors nous pouvons être libérés du péché. L'erreur des pharisiens, l'erreur de ces hommes qui réfléchissaient, qui raisonnaient beaucoup de manière humaine, c'était qu'ils pensaient qu'ils pouvaient être justes avec leurs propres actions. Ils pouvaient s'en sortir avec leur propre justice. Ils pouvaient s'en sortir en étant très rigoureux, et plus rigoureux même que ce que la parole de Dieu demandait. Ils se rajoutaient des lois, se rajoutaient toutes sortes de traditions. Mais ça les a conduits où, ces hommes? Ça les a conduits à crucifier le Seigneur. Et toute personne... aujourd'hui encore, dans ce monde, toute personne qui pense s'en sortir par les œuvres, en faisant des œuvres pour gagner son salut, elles ne font qu'une chose, c'est comme si elles recrucifiaient le Seigneur. C'est ça que ça amène. Quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas de Jésus, moi je veux m'en sortir par moi-même, c'est comme si à l'époque du Seigneur on l'avait crucifié. Mais voilà ce que nous devons faire. Voilà comment nous devons faire. Nous devons choisir la justice par la foi. Nous repentir. La repentance, c'est ce regard juste sur qui on est, sur ce qu'on a fait. Ce regard juste, cette honnêteté de cœur de dire « Oui, Seigneur, je t'avoue mon péché. » Vous connaissez le psaume 32 dans lequel il est question de la joie de celui qui avoue son péché. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Qu'est-ce qui se passe? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ce psaume, il raconte le combat qu'il y a quand quelqu'un est là, convaincu de péché, mais qu'il résiste pour demander pardon. Mais dès l'instant où la personne ouvre la bouche et dit « Seigneur, je me repens. Seigneur, je te demande pardon. » Alors le Seigneur, il pardonne. Alors le Seigneur, il fait grâce. Non seulement il nous délivre de ce péché-là, mais en plus, il nous accorde de marcher dans la justice. Connaissez ce passage dans Michée, chapitre 6, verset 8? Certains érudits juifs disent que c'est un des versets qui résume toute la loi de Moïse. Michée chapitre 6, verset 8, il est dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Si on voulait résumer un petit peu tout ce que la loi demandait, voilà un verset qui suffirait. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs passages. Les prophètes ont été inspirés de manière à apporter comme des résumés de la loi. Jésus l'a dit d'une autre manière en disant « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » C'est là la loi et les prophètes. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Mais nous ne pourrons jamais pratiquer la justice sans passer par la case, la croix, la repentance, le pardon des péchés, en disant « Seigneur, je t'offre ma vie, je veux que tu sois le maître en moi. » Et quand nous faisons cela, le Seigneur pose sa main et nous permet de vivre cette vie totalement transformée. Cette femme est repartie de ce lieu, non pas sous le poids de la condamnation, sous le poids des jugements, alors que quelques instants auparavant, elle était sûrement en train de se dire « Mais ça y est, c'en est fini pour moi. » Mais parce qu'elle a rencontré Jésus, parce qu'elle a ouvert son cœur au Seigneur, parce qu'elle a réglé le problème de son péché. Jésus ne lui a pas dit « va et ne pêche plus » si elle n'avait pas demandé pardon. Mais parce que dans son cœur, elle a demandé pardon. Alors le Seigneur a accordé sa bénédiction. Et si nous pouvons tenir bon face au péché, si nous pouvons entendre cette parole « ne pêche plus », c'est seulement par la force de Dieu, par la force que Dieu veut nous communiquer, alors que nous désirons marcher et pratiquer la justice. Matthieu chapitre 12 nous parle d'une autre situation. Matthieu chapitre 12, verset 1er, ça concerne cette fois-ci les disciples de Jésus. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit : n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des quoi ? Des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Et on voit par la suite que le Seigneur Jésus va rentrer dans une synagogue et va guérir carrément un homme le jour du sabbat. Et les hommes, les pharisiens sont offusqués. Mais la première affaire qui nous intéresse, c'est celle-ci, que les disciples qui suivaient le Seigneur, qui étaient préoccupés par être auprès de leur maître, se sont retrouvés un jour de sabbat sans avoir de nourriture, sans avoir la possibilité de la préparer, parce que le sabbat c'était interdit de préparer la nourriture. Et comme ils suivaient leur maître, ils avaient une faim qui était là. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas les bus, il n'y avait pas la voiture. Ils marchaient et ce n'était pas facile tous les jours. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés avec une faim incroyable, ce qui fait qu'en passant dans les champs de blé, ils ont cueilli quelques épis et ils les ont égrenés pour les manger. Et les pharisiens qui étaient soucieux des détails, soucieux que la loi soit respectée, mais dans un excès de justice, ont fait cette remarque au Seigneur. Mais moi j'aime souligner que le Seigneur a dit cette parole. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Ça veut dire qu'aux yeux de la loi, les hommes, les disciples de Jésus étaient totalement innocents. S'ils avaient enfreint une règle, ce n'était pas la loi. Déjà, la première chose, c'est qu'ils avaient le droit de cueillir des épis. La loi, elle est très rigoureuse par rapport à ça. C'est marqué noir sur blanc que quand on passe dans les champs, on a le droit de cueillir quelques épis. Alors, bien sûr, il ne faut pas sortir la fossile et cueillir tout ce qu'on... et mettre ça sur son épaule ou dans son sac. Non, mais quelques épis pour... si on a une petite faim qui est là, c'est totalement permis. Dans le Deutéronome, c'est bien spécifié. Mais même, il est spécifié que ce qui est interdit le jour du sabbat, c'est pas de cueillir quelques épis, c'est justement de faire la moisson. C'est ça qui est interdit, de travailler. Et vous imaginez bien que le travail, pour les pharisiens, le fait de dégrainer l'épi, ça c'était un travail. Et les pharisiens ne sont pas dans une interprétation de miséricorde. Pour Jésus, le plus important, et pour Dieu même, le plus important dans la loi, c'est la miséricorde. D'ailleurs, il le dit. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est le passage qui leur sort. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Combien de personnes sont dans l'esprit du sacrifice ? Ils veulent absolument offrir au Seigneur quelque chose, mais ils ne veulent pas avoir cette miséricorde. Ils veulent absolument faire quelque chose pour Dieu, mais ils sont totalement fermés par rapport aux personnes qui sont autour d'eux. Mais le Seigneur, il prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est cette bonté envers le misérable. Quand le sacrificateur qui a reçu David, il a vu ces hommes qui étaient là dans la faim, qui étaient là en train de fuir, il a eu qu'une pensée, c'est de venir à leur aide. Bien sûr que les pains dont il est question, les pains de consécration, ils étaient réservés pour les sacrificateurs. Mais dans cette situation, la nécessité s'imposait d'intervenir. Quand ces hommes ont eu faim, le Seigneur a permis qu'ils puissent faire cela. Et ils n'étaient pas en contradiction. Vous savez qu'en résumé, la tradition des juifs, des pharisiens, on résume par cette image. C'est comme s'il y avait une clôture dressée à plusieurs mètres d'un arbre. Et l'arbre au milieu, c'est la parole de Dieu, le commandement. Et les pharisiens, ils ont fait une clôture autour. Ce qui fait que la parole de Dieu nous interdit peut-être de toucher l'arbre, mais les pharisiens, ils disent, il ne faut pas déplacer la clôture. Ils sont encore plus stricts, moins permissifs. Mais ce n'est pas ça, la parole de Dieu. Ce n'est pas ça, le commandement qui apporte la vie. Ce n'est pas ça, l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est cette miséricorde. Et quand Dieu voit quelqu'un qui est dans le besoin, nous avons besoin, nous, de comprendre qu'il se plaît à intervenir, il se plaît à pourvoir, il se plaît à faire du bien. Quand on connaît le Seigneur, on sait qu'il est bon. Je repensais à ce psaume 103 qui parle que l'Éternel, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Attention, il n'est pas dit qu'il n'a jamais de colère. Parce que des fois, on est tellement dans la grâce qu'on oublie qu'à un moment donné, la colère de Dieu se manifeste. Mais le Seigneur est lent à la colère. Il nous donne largement le temps de revenir de notre mauvaise voie avant que sa colère s'accomplisse. Mais si on résiste, à un moment donné, nous, on goûte à la colère. Mais il est lent à la colère et riche en bonté, riche en miséricorde, notre Dieu. Voilà pourquoi ce soir, si nous avons bien compris que le plus important, c'est la miséricorde, alors nous allons être les premiers à présenter notre besoin au Seigneur. Quel est votre besoin? De quoi avez-vous besoin que vous-même, vous ne pouvez pas répondre et que seul Dieu peut répondre? C'est l'occasion ce soir de dire, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'une guérison dans ma vie. J'ai besoin d'une guérison physique, j'ai besoin d'une guérison intérieure. J'ai besoin que tu débloques une situation. Il y a des portes qui sont fermées tout autour de moi. C'est comme si j'étais entouré de murailles. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses une ouverture. Est-ce que Moïse était content d'avoir le Seigneur de son côté quand il s'est retrouvé face à la mer? Et avec derrière les Égyptiens qui sont arrivés en courant, toute l'armée qui est arrivée. Est-ce que Moïse était rassuré? Il n'était pas tremblant. Tous les peuples étaient tremblants et étaient même dans la critique. Ah, on aurait dû rester en Égypte. Mais Moïse, il connaissait Dieu. Il connaissait la miséricorde de Dieu. Il savait que son Dieu, alors qu'il était dans un besoin, n'allait pas abandonner son peuple. Est-ce que nous avons cette même certitude ce soir? Et je reprends ce verset de Michée. Que tu aimes, pratique la justice, mais que tu aimes la miséricorde. Nous devons goûter à la miséricorde de Dieu, mais nous devons aussi aimer la manifester autour de nous, cette miséricorde. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont dans le besoin et pour qui nous pourrons prier, pour qui nous pourrons donner peut-être à manger, pour qui nous pourrons être une aide, un secours? Et nous devons aimer la miséricorde. Nous devons être de ceux qui manifestent cet amour pour le prochain. Et je finis avec ce dernier exemple dans Matthieu chapitre 15, verset 1er. La justice est importante, la miséricorde est importante, mais la fidélité est tellement importante aussi. Regardez dans ce passage. « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Car Dieu dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Celui qui dit, alors je reprends. « Mais vous, vous dites « Celui qui dira à son père ou sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu » n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il l'a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Amen. La fidélité, c'est quand quelqu'un est fidèle, c'est quelqu'un à qui on peut se fier, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui est digne de foi. Et les pharisiens reprochent aux disciples de ne pas se laver les mains. Mais se laver les mains, etc., il n'est pas question de se savonner les mains, C'est des questions de traditions qui étaient là, qui faisaient que les gens se versaient pour une quantité d'eau sur chaque main avant chaque repas pour se purifier des choses du monde. Et tout cela, ce n'est pas recommandé par la loi. C'est recommandé par la tradition. Jésus le dit bien. C'est votre tradition. Pourquoi tes disciples n'obéissent pas à la tradition ? Mais les disciples avaient compris quelque chose. C'est que ce n'est pas la tradition qui sauve. Ce n'est pas la tradition qui purifie le péché. C'est la présence de Jésus. C'est le fait d'écouter les paroles du Seigneur et de les mettre en pratique dans notre vie qui nous apporte cette bonté de Dieu, cette transformation de Dieu, cette délivrance du Seigneur. Les pharisiens, eux, est-ce qu'ils sont fidèles ? Ils sont fidèles à leur tradition, d'accord. Mais est-ce qu'ils sont fidèles à Dieu ? Ce qui est le plus important dans la loi, ce n'est pas d'être fidèle à un commandement humain, c'est d'être fidèle à Dieu. Est-ce qu'ils sont fidèles ? Non. Par exemple, ils utilisent Dieu pour excuser leur infidélité. La loi demande de prendre soin de ses parents. Est-ce que c'est bien de prendre soin de ses parents ? Si vous avez encore vos parents sur la terre, vous savez combien c'est important de prendre soin d'eux. Il y a même un commandement qui nous dit « Honore ton père et ta mère ». Et combien on a besoin, si on n'a pas cet amour pour nos parents, on a besoin de venir dans la présence de Dieu, de dire « Seigneur, remplis-moi de cet amour ». Mais les pharisiens sont tellement spirituels qu'ils disent « Ah, je voudrais prendre soin de toi, papa ou maman ». Mais par contre, ce que je voulais te donner, j'ai choisi de le donner au Seigneur plutôt, tellement je suis consacré. Alors que Dieu disait « Prends soin de tes parents ». Est-ce que ça empêche qu'il ne faut pas faire d'offrande au Seigneur ? Attention, parce que là, on entend de tout, hein, aujourd'hui. « Ah, mais je dois prendre soin des miens, donc je ne peux pas prendre soin de la maison de Dieu. » Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Non, il faut être équilibré. Mais ces hommes, ils choisissaient de faire les spirituels, d'avoir les honneurs des hommes, que les hommes disent « Regardez comment cet homme, il est spirituel. Il préfère donner à l'œuvre de Dieu plutôt qu'à sa famille. Combien c'est merveilleux !» Mais non, le plus important dans la loi, c'est la fidélité. Et la fidélité du cœur. Et le Seigneur nous appelle à être fidèles. Leurs actions ne sont pas fidèles à leurs paroles. Le Seigneur leur donne ce verset, il leur dit « Heureusement qu'Ésaïe a prononcé ces paroles, je peux les ressortir à ce moment-là, ça s'applique à vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et quand il est en train d'expliquer à ces personnes qui sont là autour, qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe, il leur dit « Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Voilà où nous devons être fidèles surtout. » C'est dans notre cœur. Et si on est fidèle dans notre cœur, alors forcément ça va se voir à l'extérieur. Mais si on est fidèle que dans les apparences, alors on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ces hommes préfèrent laver leurs mains plutôt que de laver leur cœur dans la présence de Dieu. L'esprit de la loi, c'est que la fidélité règne. Et la loi de la fidélité, elle est encore valable aujourd'hui. Et je le disais, mais depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, la loi de la fidélité sera toujours la même. Elle ne va pas broncher cette loi. Et nous sommes tous soumis à cette vérité que nous devons être fidèles dans notre cœur. Est-ce que nous allons venir dans la présence de Jésus pour dire « Seigneur, purifie mon cœur. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ta parole tous les jours alors que je m'approche de toi, que je veux progresser, Seigneur, que ta parole puisse me purifier. » Est-ce que nous sommes comme les pharisiens, de ceux qui disent « Moi, je veux trouver des excuses dans la Bible pour faire ceci ou cela. » Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous posent des questions, qui disent, vous connaissez un verset qui va dans ce sens, mais c'est pour excuser. Alors nous, on leur trouve le verset, mais on trouve aussi l'autre verset qui dit ce qu'ils doivent faire. Où est-ce que nous en sommes quant à la justice, la miséricorde et la fidélité ? Est-ce que nous sommes de ceux qui sont, avec la parole de Dieu, tranchants, méchants, qui sont raides, intransigeant avec la parole de Dieu et qui amène pas la bénédiction? Vous savez qu'on peut faire mal, je le disais tout à l'heure, mais on peut faire tellement mal avec un verset de la parole de Dieu, mal appliqué à quelqu'un. Et demandez à Job, est-ce que c'était pas des belles choses qu'ils ont dit les amis de Job? Quand vous lisez, moi, il y a des passages qui sont magnifiques, mais ils n'étaient pas du tout à propos. Mais quand on a compris ce qui était le plus important, alors on veille à marcher, à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde, à marcher humblement avec notre Dieu, à être fidèle avec le Seigneur, à être droit avec lui, à marcher dans cette sainteté. On va fermer les yeux. Et pendant ces quelques instants, laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Peut-être que dans les trois aspects que le Seigneur Jésus a relevés dans ces versets, peut-être que nous pouvons dire que tout va bien pour nous. Mais peut-être qu'il n'y en a qu'un seul dans lequel on a besoin de faire des progrès. Peut-être que c'est la justice, la miséricorde, le fait d'aimer mon prochain, ou le fait d'expérimenter la miséricorde de Dieu, de ne pas croire que Dieu peut me bénir dans mon besoin, le fait d'être fidèle. Oh, quel homme pourrait dire « moi, je n'ai pas besoin d'être fidèle. Je suis assez fidèle comme ça. » Quel homme pourrait dire « j'ai pas besoin de l'aide du Seigneur pour être fidèle. » Je crois que dans ces moments, si on veut marcher humblement avec notre Dieu, on a le devoir d'être honnête. Alors prions le Seigneur maintenant. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui apporte la vie à ta parole, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas donné seulement une lettre morte, mais ta parole est vivante, ta parole est efficace, ta parole produit la vie quand nous plaçons notre foi en elle. Seigneur, dans ces instants, tu sais ce que nous avions besoin d'entendre, que cette parole, Seigneur, prenne vie en nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, et que, Seigneur, elle puisse faire son effet. Tu vois celui qui a besoin de te demander pardon, de te repentir, de se convertir. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les situations, que dans ces moments, Seigneur, ta parole puisse produire ce bon fruit dans les vies, afin que nous soyons de ceux qui se soumettent à ta divine loi. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans le piège des ordonnances et du zèle de l'obéissance à des commandements que tu ne demandes pas. Mais Seigneur, nous voulons être aussi de ceux qui marchent dans l'obéissance à ta parole, qui marchent avec équilibre, avec droiture, qui ne sont pas, Seigneur, intransigeants, mais qui sont toujours prêts à venir en aide à celui qui est à côté d'eux. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher dans tes voies. Tu vois la personne qui a besoin ce soir, oui, de se repentir, de connaître la délivrance du péché, comme cette femme adultère l'a connue. Seigneur, merci parce que tu nous permets ce soir, par ta parole, d'être libérés. À l'écoute de, Seigneur, cette parole, nous pouvons être délivrés de tout cela. Merci, Éternel, parce que tu es celui, non pas qui juge, non pas qui condamne les hommes, mais qui se plaît à les délivrer, qui se plaît à les pardonner, à leur donner une vie nouvelle. Alors fais-le pour tous ceux qui mettent leur foi en toi ce soir. Merci Éternel. Amen.